Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Guerre civile en Libye, les belligérants ont fait des progrès en vue d'un accord de cessez-le-feu durable. Mais il reste encore quelques points de divergence. C'est ce qu'a indiqué jeudi à Genève l'émissaire spécial de l'ONU, Ghassan Salamé. Le point avec Nathalie Barge.
Des progrès ont été faits sur de nombreux sujets importants et nous avons devant nous des convergences dans plusieurs domaines, a indiqué Ghassan Salamé au quatrième jour de tractation entre hauts responsables militaires des deux camps rivaux. Les belligérants sont d'accord pour que la commission militaire libyenne conjointe, réunie à Genève, soit impliquée dans le suivi d'un cessez-le-feu sous les auspices de l'ONU, a dit M. Salamé. Confirmée lors du sommet du 19 janvier à Berlin, cette commission doit définir les conditions d'un cessez-le-feu durable avec retrait des positions militaires. L'émissaire onusien a précisé qu'il restait à régler quelques divergences, ajoutant espérer qu'un accord sera possible pendant cette semaine de négociations. Des discussions sont aussi prévues sur le volet économique le 9 février au Caire et sur le volet politique à partir du 26 février à Genève.
La lutte anti-djihadiste dans le Sahel maintenant a calmé dans les attaques djihadistes au Burkina Faso. Le producteur canadien d'or, Semafo, a annoncé jeudi la réouverture de sa mine d'or de Bungu dans l'est du pays. Cette mine avait été fermée fin 2019 après une embuscade le 6 novembre dernier contre un convoi de véhicules de la compagnie qui a fait 38 morts. Le point avec Bagassi Koura.
Un hélicoptère pouvant transporter 10 employés à la fois a commencé à faire la navette entre la mine et Fada, ville à environ 200 km à l'est de Ouagadougou, a annoncé Semafo dans un communiqué. Dès que la construction d'une piste d'atterrissage sera terminée, les transferts se feront par avion, a précisé Semafo, sans fournir d'échéancier. La société prévoit que l'extraction de l'or ne reprendra qu'au quatrième trimestre, les stocks étant suffisants pour alimenter les installations pendant environ 10 mois.
Burkina Faso toujours, plus de 2300 écoles ont fermé depuis le début des incursions djihadistes dans le pays en janvier 2016. Des chiffres annoncés hier par le gouvernement burkinabé qui précise que 36 écoles de plus ont fermé ces dernières semaines après l'attaque de Lambda Mall dans le Sahel qui a fait 18 morts. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Que devient le secteur de l'éducation en cette situation d'urgence? C'est à cette question qu'a répondu le ministre de l'Éducation hier jeudi à Ouagadougou. Et les chiffres annoncés sont alarmants.
À la date du 30 janvier 2020, nous enregistrons 2369 établissements fermés, affectant 325 245 élèves et 10 048 enseignants, avec 623 établissements endommagés.
Stanislas Waro, ministre de l'Éducation.
Cependant, il faut signaler que suite à l'attaque de Lambda Mall, il y a quelques jours, on enregistre à la date du 3 février 2020 36 écoles primaires fermées dans la commune de Bani. Les milliers de personnes déplacées internes, dont de nombreux élèves, ont occupé des salles de classe, occasionnant parfois leur détérioration et nécessitant leur réhabilitation.
Tous les secteurs sont touchés, mais celui de l'éducation est éprouvé, selon le gouvernement. Au moins 6 régions connaissent les fermetures d'écoles. Il faut accompagner les forces de défense et de sécurité, selon le ministre de l'Éducation.
Le plus important, c'est qu'on travaille à accompagner les forces de défense et de sécurité à faire en sorte que ces zones-là soient suffisamment pacifiées de façon à nous permettre de revenir, dérouler notre programme parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas vous voir là-bas. Donc que ce soit des personnes du village ou pas, ils n'en veulent pas. Donc on n'a pas intérêt à travailler, à ne pas protéger donc, nos compétences, à ne pas protéger nos populations. Donc nous, c'est surtout avec les forces de défense que nous travaillons. Et ce sont elles qui nous disent à quel endroit on peut repartir. Et dès que c'est dit, nous discutons avec nos agents pour repartir et rouvrir nos écoles.
Le gouvernement dit qu'il travaille à gérer cette situation.
À la même date du 30 janvier 2020, la réouverture de 824 établissements scolaires.
Stanislas Waro.
Il faut noter également la réinscription de plus de 20 000 élèves des établissements fermés ou élèves déplacés internes dans des établissements d'accueil. Ça, ce sont des chiffres d'élèves que nous avons recensés. La réhabilitation des établissements endommagés suite à leur occupation par les personnes déplacées internes, la réalisation d'infrastructures pour accueillir les élèves déplacés, et des initiatives locales d'accueil et d'inscription des élèves des personnes déplacées internes.
Depuis le début des attaques terroristes en janvier 2016, 10 enseignants ont été tués selon les autorités. Le 4 janvier dernier, 14 personnes ont été tuées, dont 7 élèves sur l'axe Toini-Tougan dans la boucle du Moun. Les attaques ont fait 480 morts civils et militaires dans la seule année 2019 selon le gouvernement burkinabé. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Politique au Cameroun. Les Camerounais sont appelés à voter dimanche pour des élections législatives et municipales, en partie boycottées par l'opposition. Un scrutin qui ne suscite guère d'enthousiasme dans un pays où près d'un million de personnes ont été déplacées par deux conflits meurtriers, les incursions djihadistes dans l'extrême nord et les attaques des séparatistes anglophones dans l'ouest. Le principal parti d'opposition, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de Maurice Kamto, adversaire malheureux du chef de l'État Paul Biya à la présidentielle de 2018, n'ayant présenté aucun candidat, le RDPC au pouvoir est quasiment garanti de rafler la mise une nouvelle fois. La formation politique du président possède déjà une majorité parlementaire écrasante à l'Assemblée, 148 sièges sur 180. En République démocratique du Congo, un opposant accusé d'outrage au président Félix Tshisekedi a obtenu la liberté provisoire après plus d'une semaine de détention en Ituri, province du nord-est du pays. Les détails avec Eddy Isango.
Luc Malembe, porte-parole de la Mouka dans la province de l'Ituri, a lui-même annoncé hier sa remise en liberté provisoire. L'opposant indique avoir été libéré sous caution. Sa famille politique a confirmé sa libération dans une déclaration sur Twitter. Ses proches de Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle, placent sa détention dans le cadre d'un règlement des comptes politiques. Il a été arrêté le 24 janvier à Bunia et accusé d'outrage au chef de l'État après des déclarations faites à la presse lors du premier anniversaire de l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. Il a qualifié l'année des gâchis alors que le peuple attendait une vraie alternance. L'opposant a affirmé ne pas avoir d'espoir pour le pays dirigé par une coalition avec une majorité des partisans de l'ancien président Joseph Kabila dans toutes les institutions. Le président Tshisekedi a promis d'œuvrer pour le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales au cours de son mandat à la tête du pays.
L'Union africaine se réunit en sommet dimanche et lundi à Addis Abeba en Éthiopie avec pour objectif de faire taire les armes dans les conflits qui affectent encore le continent africain. C'est d'ailleurs le thème de la rencontre annuelle qui va se dérouler en présence des chefs d'État et de gouvernement des 55 pays membres de l'organisation panafricaine. Des progrès ont certes été enregistrés dernièrement en Centrafrique et au Soudan, mais du Cameroun au Mozambique, de nouvelles crises sont venues s'ajouter à celles qui déchirent déjà des pays comme la Libye ou le Soudan du Sud. Le président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, qui succède à l'Égyptien Abdel Fattah al-Sissi à la tête de l'Union africaine dans le cadre de la présidence tournante, a rappelé que les conflits continuent de limiter le développement de l'Afrique. Actualité aux États-Unis maintenant, au lendemain de son acquittement par le Sénat à l'issue de son procès en destitution, le président Donald Trump a tiré à boulet rouge jeudi contre ses opposants. Le chef de l'exécutif américain les a accusés d'être malhonnêtes et corrompus. Eric Maniraquiza.
Ce n'est pas une conférence de presse, ce n'est pas un discours, a-t-il lancé d'entrée, précisant qu'il s'agit d'une célébration. Le président Donald Trump a exprimé son amertume avant de remercier sa famille, en particulier sa fille Ivanka et sa femme Melania, pour leur soutien. Depuis les salons de la Maison-Blanche, il a opté pour une tonalité de ses meetings de campagne. Une honte, un désastre, des conneries, des menteurs, des vicieux, des méchants, a-t-il martelé. New York Times, Washington Post, j'ai eu tant de titres fantastiques, s'est-il amusé. Le président Trump a aussi pris pour cible le sénateur républicain Mitt Romney, seul membre de son parti à avoir voté pour sa destitution. Si sa mise en accusation restera comme une tâche indélébile sur son mandat, son procès a démontré qu'il pouvait compter sur un parti républicain qui fait bloc derrière lui. C'est un atout de taille face à des démocrates qui n'ont pas encore choisi leur candidat pour la présidentielle de novembre prochain.
Alerte au coronavirus pour terminer. Le monde fait face à une pénurie de masques et autres équipements de protection individuelle contre le nouveau coronavirus à l'origine d'une épidémie de pneumonie virale qui a déjà fait plus de 630 morts en Chine continentale. Avertissement lancé ce vendredi par le patron de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, lors d'une réunion de l'agence onusienne à Genève, en Suisse. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.